Bonsoir à tous et à toutes. Hachem Hachem Nasé Venatsliar, ça me fait vraiment chaud au cœur de revenir auprès de mes chers frères, Rav Koska et Rav Ilan, les deux tzadikim de cette ville qui essayent de drainer la jeunesse et d'encourager les enfants d'Hachem vers Avinu Sheba Shamaim. Ça me fait beaucoup plaisir d'être là. Comme il me l'a dit, je vais beaucoup circuler ces derniers jours. Je ne sais même plus où j'étais, tellement j'étais dans des endroits. Mais bon, j'aime de revenir ici à Lyon pour ces quelques heures. C'est un véritable bonheur de voir ces visages rayonnants. Et je prie Melech Malcham Lachim, le patron de l'univers et le maître de toute inspiration, qui puisse éclairer mes yeux et mon cœur pour éclairer les vôtres. Qu'on ait la réfouachilma pour tous les cholam ou Israël, Bichlalam, Ishaï Mahlou Ben Rachel, mon cher fils. Et je vous remercie beaucoup pour les pilotes que vous avez fait pour lui. Je sais que dans le monde entier, il y a eu un chizouk extraordinaire. Il a été opéré en France à l'hôpital Necker. On est venu sur l'ordre de notre maître, notre lumière, Abraham Kanievski, Shlita le Gadol Ador, qui nous a envoyé ici. Et une fois qu'il a fait l'opération, il était dans un matzav difficile. Ça a mis du temps pour lui pour se remettre. Il vomissait tous les 15 fois par jour, à peu près pendant 4 jours d'affilée. Il a perdu beaucoup de force jusqu'à ce que les médecins ne savaient plus quoi faire. On était vraiment dans une impasse. On a envoyé un message à tous les Bnei Israël, à tous les tzadikim qu'on a pu mériter de renforcer une fois dans notre vie, pour leur demander qu'ils prennent sur eux des tfilotes, du chizouk. Il y a des chaînes de Teilim qui ont été faites, il y a des chaînes de Lachonara, des chaînes de Tzniut, de Pudeur. Il y en a qui ont pris sur eux du Limouda Torah. Et bien, au Chouba, au Shemo, le jour même, on a envoyé le message. Alors, Ishtabar Veitale Shemo Laad, il s'est senti mieux, et le lendemain, il est sorti de l'hôpital. On voit ce que c'est le corps des tfilotes, Mika Mecha Israël, quand il y a la solidarité, l'harmonie, la fraternité et la redoute dans le clan Israël. Nos tfilotes se donnent la main, elles arrivent jusqu'au trône céleste. On doit être conscient, Abu Dhabi, de cette force qu'on a, de la force dont on est dépositaire des Matthéos, Biat Koladam, ce bouclier extraordinaire qu'est la Torah, qu'est la Tfila. C'est une baguette magique dans la main de chacun. Et c'est pour ça que, Bedrat Hashem, je prie à Melech Malcham Lachim de pouvoir faire en sorte de vous rendre là-bas le chesed que vous nous avez fait, que vous soyez jamais malade. Ni vous, ni vos enfants, ni vos familles, que vous ayez toutes les brachot de la Torah qui s'accomplissent sur vous, que tous ceux qui ne sont pas mariés se marient bekarov. Je savais. C'est comme ça qu'on les réveille déjà. Ceux qui sont mariés restent mariés, c'est nous. Personne ne dit amen parce qu'il n'y a personne qui est marié encore. Ils disent, bon, c'est pas grave, à part nous là et tout ça. Mais... Il y en a qui croient que c'était des blagues, mais après ils se sont aperçus que ce n'est pas des blagues. C'est plus difficile de rester marié que de se marier, sachant que le divorce est à 59% dans la communauté juive française. C'est plus difficile de rester marié que de se marier. Donc ceux qui sont mariés restent mariés, c'est nous. Vous pouvez dire amen. Même si vous n'êtes pas concerné encore, mais vous êtes attaché. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont enfants des Bekarov. Et ceux qui ont des enfants, ils envoient avec nous à Torah Tisrael, on s'occupe d'eux et Bedrat Hashem qu'on mérite la Géoula Shlema, amen vers nous. Nous sommes les véritables milliardaires. On vient de sortir de la période de Pourim et on arrive dans ce tronçon qui sépare la fête de Pourim de la fête de Pessah. Que c'est Rabotaï des moments dans lesquels on doit se préparer à la Géoula, à la délivrance de Klal Israël. Il faut essayer de voir un petit peu quel a été le point commun entre ces deux éléments-là, entre la fête de Pourim et la fête de Pessah. Mais si Atad Ishmael avec l'aide du ciel, au cours de cette tournée, j'ai découvert un Yesod magnifique, j'ai réorganisé là-bas un petit peu les éléments, et je voulais vous les dire en espérant qu'ils puissent trouver grâce à vos yeux et que vous serez d'accord avec moi. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à vous lever et tout ça. Je vous mettrai une balayette, tranquille. Je suis ceinture nord de judo, donc je vous ferai très rafalas et je vous fais une planche japonaise par la fenêtre là-bas. Mais comme on est au rez-de-chaussée, ça va, ça risque rien. Vous disiez, on se trouve donc dans ce passage entre les fêtes de Pourim et les fêtes de Pessah. Et il faut essayer d'être mitbonen un petit peu sur le message que Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. La Gemara Kedoshah nous dit une allégation qui est tout à fait incroyable. Les petits-enfants de Haman, ils ont eu le mérite d'étudier la Torah à Bnei Brak. C'est quelque chose d'assez énigmatique, il faut en connaître. Il y a des gens qui, en apparence, ils ont des tzadikim et ils ont des descendants qui sont perchés dans la prairie, là-bas, à la crinière de Barakuda, et l'on a demandé, et Pumba, le sanglier de la campagne. Et ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Cet argent est chita, et ça, de quels os s'est-il échappé? Non, non, c'est le fils là-bas du rabbi. Attends, mais j'ai pas compris. Comment c'est possible? Le gars, c'est le tzadikim, les enfants, ils partent dans le décor. Et parfois, t'as des genouns, c'est des mzrobim des campagnes, et ils ont des enfants qui sortent et qui sont des sommités des lumières du monde. Comment ça se fait, Rabotaï, qu'il y a des gens qui ont, comme Aman Arasha, qui était l'une des plus grandes pourritures que le monde n'ait jamais portée, et qui pourtant, il a eu le mérite d'avoir des descendants qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Rav Shlomo Levinstein, un Talmid Chacham chez nous à Bnei Bronx, Il avait apporté un Yesod extraordinaire. Il avait apporté un Yesod magnifique. Quant à Manaracha, il a entendu que Vena Aforou, que le décret d'extermination et de solution finale contre le clan d'Israël avait été abrogé. Il a voulu voir qu'est-ce qui était à l'origine du fait que le vent avait tourné. Il est parti au Beth Amidrash, sachant qu'il savait que dans la maison d'études, les Bnei Israël étaient réunis pour 3 jours de jeûne, 3 jours de tfilot, 3 jours de tachanunim, sur l'ordre de Esther Amalka qui leur a dit Tsumo alay al tochlu val tishtu, faites 3 jours de jeûne, ne mangez pas et ne buvez pas. Donc ils sont arrivés là-bas et il s'est dit je vais les trouver. Au terme de 3 jours qu'ils ont mangé, ils vont avoir la tête de Tchabeb, ils vont pleurer, ils vont se déchirer les vêtements, ils vont avoir la tête de Thomas, soporifique. Il dit oui, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils avaient 3 jours, les gars ils vont être au bout du rouleau. Ils vont être au mort, comme on dit chez nous. Et voilà que donc il arrive dans le Beth Amidrash. Et Rabotai, quelle ne fut pas sa surprise et sa stupéfaction, sachant que les Juifs n'avaient pas entendu que les décrets avaient été abrogés. Donc il s'est dit, si déjà je n'ai pas le mérite de voir mon ennemi juré mourir, je vais le voir à quelques heures du moment où il pense qu'il va mourir. Donc il pensait le trouver fartas, les gamrer Rabotai au bout du rouleau total. Et il voit là qu'il arrive dans Beth Amidrash, il trouve les enfants qui sont en train d'étudier avec Mordechai et Yehudi, mettre le feu au stade Rabotai, le stade Jana est en ébullition et ça. C'est la fête où il faut la hola et tout ça, il a enseigné là-bas la mitzat à Omer. C'est une mélacha des plus difficiles de Mishkan qu'il fallait prendre là-bas. Alors il lui montre comme ça, les enfants lui disent comme ça, et l'autre il lui dit comme ça, et ils font la planchette japonaise, ils se rejettent d'un côté et de l'autre. Il fallait voir, Abouda, il devenait complètement ma boule. À ce moment-là, quand Manaracha il assiste à ce spectacle incroyable, il va déclarer une phrase qui va lui valoir d'avoir des petits-enfants qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Il a dit la Knitsata Omer de Mordechai à Yehudi. Elle a devancé les milliers de pièces d'or et d'argent que j'ai payées pour avoir la libre disposition des Bnei Israël. Il aurait pu faire dépendre sa chute de toutes sortes d'éléments et d'événements qui sont liés au hasard, comme ses ascendants qui sont des Amalekim. Amalek, Rabotai, c'est l'ancêtre de Aman. Et Amalek, c'est celui qui rejette toute la transcendance divine, toute la majesté d'Hachem, toute l'Ashgacha, qu'il y a un patron dans le monde et dans l'univers, et que c'est lui qui dirige et que rien n'échappe à sa volonté. Il aurait pu donc dire, ben écoutez, il y a eu un changement de gouvernement et tout ça, balai diplomatique et tout ça. Il va se dire, peut-être, voilà, il y avait à l'époque, il y avait Obama, il a été remplacé par Mickey Pluto et Donald, là-bas, le bon président d'États-Unis, qu'on le salue s'il nous regarde en duplex, nous vous saluons, notre cher président. Ouais, donc, ou sinon, il y avait là-bas Kofi Annan, il a été remplacé par Ban Ki-moon, le frère de Sushi West. Donc ils se sont dit, à partir du moment que... Ça fait plaisir que vous rigolez, ça jamais. C'est bon. Ça, vous avez vu ça, le théâtre gratuit en plus. Tranquillou Marilou, comme on dit sinon. Un bon temps, donc il s'est dit, voilà qu'il y a eu un changement de gouvernement. Et du fait qu'il y a eu un changement de gouvernement, c'est pour ça que, ben, ce prochain d'avant, on a eu ce décret d'extermination du peuple, le décret d'extermination de clan d'Israël, il a été annulé. Il a fait dépendre sa chute du sroud du limoud à Torah. Ça veut dire qu'il a estimé le limoud à Torah à tel point que c'est le facteur de tout ce qui a fait qu'il est descendu de son piédestal incroyable. Mouraï Verabota, il a dit la parole qui est marquée dans les Charabati, à Kol Kol Yaakov en Ayadaï Miedesa, quand la voix de Yaakov a retenti dans les maisons d'études. Les mains de nos ennemis, Rabota, ils n'ont pas pris sur nous. Le sroud de la Torah des Tzadikim et des Tzadikot de Lyon, c'est le bouclier protecteur de tout le peuple juif. Nous sommes le chef d'état-major de l'armée d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Chacun d'entre nous qui nous penchons dans le limoud et que vous venez chaque mardi soir vous chauffez le cœur avec les paroles de Torah, vous devez savoir que vous êtes les boucliers protecteurs de tout le cas à l'Hachem. Vous chassez les maladies, les accidents, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes de couple, tous les problèmes sont solutionnés par le sroud du limoud à Torah. Quand la voix de Yaakov elle retentit dans les maisons d'études, les mains des saves n'ont pas pris sur nous. Si jamais Rabotai il est capable d'estimer la Torah Akdosha Atkedekar, alors celui qui estime la Torah, ses enfants, ils estiment la Torah. Celui qui estime Wall Street, et la City, et le 440, et les Porsche Ferrari, et le 4x4 Jaguar, et la jet ski dans la piscine, et le surf Chavois là-bas dans le week-end, dans l'Hermitage à Monte Carlo à 12 000 euros la nuit, et les hélicoptères de fonction, il te dit les enfants, ils vont là-bas estimer cette chose-là. Tout est en fonction de ce que tu estimes. Si jamais la Torah c'est ta vie, as les enfants ils estiment la Torah comme étant leur vie. Les enfants ne sont pas dupes. Les enfants ils sentent qu'est-ce qui est chashuv, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui fait briller nos yeux et qui fait briller notre cœur. La reine, à partir du moment où Aman il a eu le mérite d'estimer tellement la Torah, qu'il a compris que c'était ça qui avait été à l'origine de ce retournement de situation, il a eu le mérite d'avoir des banav shelem d'utor benevrak, il a eu des petits enfants, tzadik. Il a eu Rabotai le srout d'avoir des petits-enfants qui ont étudié Torah à Bnei Brak. Et il faut savoir une chose, c'est que la situation dans laquelle les Bnei Israël se sont trouvés, qu'il était très 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 ambigu et très difficile, qu'on a prisé l'extermination, ça venait justement du fait qu'on n'estimait pas suffisamment la Torah. C'est marqué là-bas, Gemara dans Masechet Megillah aussi. Pourquoi les ennemis du peuple juif? On dit sur nous pour ne pas nous faire des malédictions. En fait, c'est nous dont il s'agit dans l'affaire là. On a mérité un décret d'extermination et de solution finale. Répond la Gemara. Parce qu'ils ont profité de la Seouda de Ahasverosh. Je sais que vous avez plus de connaissances que moi dans ce domaine. Mais moi, j'ai regardé dans les Gemarot et j'ai jamais vu que le fait de manger des bambas et des bislis avec le badass de l'Aïda Haredit là-bas et de tous les bons Ashgachot, c'est quelque chose qui est passible de la peine de mort. Vous savez qu'il y avait des Mashgichim qui étaient sur place et qui ont monté la garde. Mais en quoi le fait de manger des bambas et des bislis et de la Istipesh et des Mr. Free, c'est quelque chose qui est passible de la peine de mort? C'est quelque chose qui est incroyable. Les commentateurs veulent expliquer que le fait d'avoir contrevenu à la volonté du Gadol qui était Mordechai Yehudi, qui leur avait demandé de ne pas s'associer à cette Seouda, à ce repas-là qui venait célébrer le règne d'Achashverosh, le fait qu'ils sont allés à contre-courant parce qu'ils disent « Ouais, mais ces rabbinim, ils comprennent rien à la politique, à la diplomatie, aux relations internationales. Si jamais on va pas là-bas dans cette fête du trône où il y a 127 provinces, on va faire tâche, on se met en rupture avec le système, c'est un crime de lèse-majesté. Et ils vont nous mettre là-bas sur le banc de la société, ils vont nous considérer comme des refouzniks et des gens qui sont des rebelles, et on va se faire terrasser. » Chaboub, kol hakavod, pour cette analyse géopolitique et géostratégique de la situation qui est tout à fait extraordinaire. Aval, tu te plantes juste sur un point. Que quand le gadol il te dit que ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite, tu dois t'annuler complètement. Rabotai, les gdolim sont les yeux du monde. Ils voient beaucoup plus loin que nous. On comprend rien, Rabotai. C'est eux qui sont nos lumières et c'est eux qui sont nos maîtres. À Kedeka, que c'est marqué, une Gemara de Chan nous dit que si jamais quelqu'un il tranche la halakha devant son maître, il est passible de la peine de mort. Il demandait pourquoi. Il a dit, tu sais pourquoi? Il a dit, Rabchaim Shmuel Levi Zatzal, le Rosh Yeshiva de Mir. Il dit, le Rebbe Rabotai, quelque chose de nifla. Il te dit de la même façon que le clan Israël, il est Nimshal le Yona, il est considéré comme une colombe. De la même façon que la colombe, elle se défend avec ses ailes. Les Gdolim, les maîtres de la génération, sont les ailes de la colombe du peuple d'Israël. Si jamais tu t'en prends aux ailes de la colombe ne peut pas se défendre et sa pérennité, elle est rabotaille compromise. De la même façon, si quelqu'un il tranche la lara devant le maître, ça veut dire qu'il neutralise les Gdolim. Si tu neutralises les Gdolim, c'est toute la pérennité du peuple d'Israël et sa survie qui est en danger. Raison pour laquelle celui qui tranche devant son maître, il est passible de la peine de mort. Ercheloye, c'est tout à fait incroyable. Dans ce problème-là de se dire peut-être, parce que voilà, ils ont tranché la halakha contre le rabbi qui a dit, il ne faut pas, Mordechai Yehudi, s'installer avec ces gens-là. Mais Rabotai, on va dire, on va mettre la metzrout, on va amener des circonstances atténuantes en disant que peut-être si jamais tu fais ça de façon involontaire, alors c'est pas aussi grave que si tu viens et de façon consciente tu vas contre le gadol. Donc quel est le problème? Et les commentateurs nous disent quelque chose d'extraordinaire. Le problème c'est pas qu'ils sont allés à la Seouda. Nehenu, ils ont kiffé la Seouda. Ils ont profité de la Seouda. Ils ont senti que Habibi, on est des gens importants là, on kiffe notre vie là. Ils sont... Normalement tu vas à la Seouda, tu dis que c'est pour toutes ces raisons là que t'as pas envie de te mettre en rupture avec le système et que t'as envie d'attirer les faveurs des nations et des peuples. Alors vas-y avec la mort dans l'âme, vas-y avec la tête de Tchabab, vas-y là-bas avec des habits à l'ancien. Ils sont allés, ouais les gars, champomis, ils sont dans le col, la fête est plus folle, c'est la fête au village et tout ça, ce soir au Pacha et au Carré, au Shalvata. Et là-bas, on dit que Morio et les siens, Rabotai, les gars, ils étaient comme des maboules, ils ont pris le champagne, ils commencent à asperger, le Grand Prix de San Remo, ils se sont sentis dans l'affaire, le parrain de la gâte, on y monte dans le monde, à moi. Ils ont cru, ils se sont cru dans la situation là. Ils ont dit, ah purée, pour une fois, qu'on se fait pas arnaquer. Nous, d'habitude, quand on va là-bas dans les mariages, surtout chez nous, à Bronx, vous n'avez pas, vous connaissez pas ça, vous. Mais nous, au mariage, ils nous gratifient de borécas, les types. Faut savoir. On se reçoit des borécas de qualité supérieure. La bouteille, on en a marre de recevoir ça. Pour une fois qu'on recevra le tourne de Rossini de qualité supérieure avec là-bas la tarte au citron meringué, là-bas, et là-bas, et le... Il t'est dit parfois dans les cartes du mariage, ça, les trucs, les gars, ils, en fait, c'est juste un morceau de viande, mais un coulis de prairie, de la prairie des filtres qui chèvre chaud. le rabou, qu'est-ce que tu fais le fou? C'est juste un morceau de steak qui est posé là-bas, qu'est-ce que tu mets dans ma boule? El Shelouye, les gars, ils se sont sentis là-bas, Hachouvim. Ils ont senti qu'ils s'associent là-bas avec les goïms qui sont avec eux et tout ça, ils se sont sentis bien. Si jamais, Rabotaï, on sent qu'on est dans un matzav dans lequel on en vit et qu'on adore et qu'on estime et qu'on admire les nations et les peuples, alors ça, c'est quelque chose qui est passible de la solution finale. C'est pas une punition, Rabotaï, c'est un constat. C'est une conséquence et c'est une relation de cause à effet qui est inéluctable. Pourquoi, Mouraïd Verabotaï? Parce que si jamais toi tu sens que t'es le plus grand milliardaire du monde, alors tu pourras toujours lutter contre le Yetzerara. Mais si tu penses que t'es en train de te faire arnaquer, tu penses que t'es une victime du système, que t'es un pauvre type, que t'es en train de te priver de ce monde pour mériter le monde futur, que t'es un martyr et que t'es une victime de la société, Rabotaï, t'es foutu. La seule façon de pouvoir se protéger, se préserver de toutes les agressions du monde dans lequel nous vivons, mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs, sachez une chose. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation dans laquelle on n'est plus dans le ghetto de Varsovie, ni dans le Mela du Maroc, ni là-bas on se trouve dans le Shtetl, ni on se trouve dans Goshen, où les Juifs vivaient repliés sur eux-mêmes. On se trouve dans un monde où on est entouré là-bas de tout, la Touma, de toute l'impureté. On voit Rabotaï à quelques centimètres de nous, on est entouré là-bas de toute la Touma, il n'y a plus le mur de Berlin. Il n'y a plus un endroit dans lequel on peut se cloisonner, se protéger, se préserver. La seule façon de ne pas être aspiré inexorablement et inéluctablement vers les méandres de ce monde, qui est comme un aspirateur qui veut rabotailler, nous effacer complètement, c'est de sentir combien on est méritant d'avoir été les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. C'est notre vie et qu'on sent qu'on est le plus grand milliardaire du monde. Si tu sens que tu es le plus grand milliardaire du monde, tu es protégé. Parce que quand tu verras tout ce qu'il y a autour de toi, tu ne te laisseras pas séduire par les passions et les pulsions et les illusions de ce monde. Mais si tu crois, Rabotaï, que tu es un mesquin, tu es fini. Je vous dis, mes frères, ça fait plus que 10 ans que je tourne dans le monde entier. Et c'est ce que j'ai découvert de Siata Dishmaya. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le chemin de la Torah et des Midot parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on a l'American Express, la Black Card et la Platinum d'être... Amen, je vois. Enfin, ouais. Quand tu l'as, tu me fais la main virement à Torah d'Israël. Rabotaï, je vous dis là, on est des plus grands milliardaires du monde, c'est nous les vrais milliardaires, les gars, ils n'ont pas conscience de ça. Ils croient qu'on est en train d'être des martyrs dans ce monde. Allez, Bédrat Hachem, bientôt on arrivera dans le Lamaba. Pour l'instant, on vit par procuration. On est en train de vivre en apnée, Rabotaï, on est les plus grands milliardaires du monde, il faut le sentir au plus profond de nous-mêmes, sinon on est fini. On se fait appeler, Rabotaï, par toute cette touma du monde, et on croit, voilà, c'est mieux là-bas. Ce qu'il avait dit une fois, le Chazonish, la grande lumière de Klal Israël, Maran Chazonish, qui était le maître de Bnei Brak, qui a fondé la ville, l'oncle de Rav Chaim Kanievski, Shlita. Dans le livre des gouttes de lumière pour l'éternité qu'on a écrit, Vesiata Dishmaya, on a mis la photo d'Egdolim parce que c'est marqué que les yeux doivent voir les maîtres. Ici, c'est Maran Chazonish, c'était un très très grand tzaddik et un gadol qui était consulté par les grandes autorités médicales de la génération. Il mettait tout le monde Rabotaï dans la petite poche, il pouvait jouer à la pétanque et au cochonnet avec eux. C'était un très très grand Rabotaï de Chazonish. Il a dit une fois à Rav Wolf, le fondateur des séminaires, il est venu le voir et il a dit Rebbe, ta guide lit. Je voudrais comprendre une chose. Il le dit, comment on fait? Avec quelle base et quelle clé une fille elle doit sortir du séminaire? C'est quoi toute la Torah du séminaire sur un pied? Comme il avait dit le prosélyte dans la Gemara dans Maseret Shabbat Arabi à Hillel, à la page 31, il lui a dit je voudrais apprendre toute la Torah mais avec la condition somme toute assez insolite de se tenir sur un pied faire le signe des chevaliers du zodiaque. Oui. Ou là-bas, shalom. Il te dit, alors j'aimerais bien savoir et tout ça, faire la statue de la liberté comme ça. Je vais rester comme ça et tu vas m'enseigner. Il lui dit, pas de problème, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout le reste n'est qu'une exégèse. Ne fais pas du mal à autrui et t'es tranquille après. Parce que si t'es capable de penser à l'autre, tu penseras à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute la raison pour laquelle on pense pas à Dieu, c'est parce qu'on pense qu'à nous-mêmes. Donc si tu penses à quelqu'un d'autre que toi, tu pourras trouver à Kadosh Baruch Hu. Je vous ai dit un concept là que vous pouvez penser toute la nuit pour le truquer, mais c'est du très très lourd. Si vous voulez bien le retenir pour ne pas l'oublier, ça sera magnifique. Et si vous avez peur de l'oublier, alors vous prenez les gouttes de lumière pour l'éternité, soit dans les disques ou soit dans le Sefer. Il y a un shiur qui se passe dans Acharimot Kedoshim de notre maître, notre lumière, Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui nous a quittés ces derniers mois, qui nous explique là-bas que les commandements vis-à-vis de l'homme, du prochain, c'est la base de toute la Torah. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tout ce qui empêche les gens de faire la volonté de Dieu, c'est pas leur problème des mounins. C'est le problème qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête parce qu'ils sont comment on appelle ça, égoïstes et égocentriques et sont repliés sur eux-mêmes et ils sont paresseux. Donc dès que tu sors de ta paresse et que tu penses à quelqu'un d'autre, tu trouves un Kadosh Baruch Hu. Alors en tout cas, il a dit, donne-moi toute la Torah du séminaire. sur un pied. Avec quoi nos fiels doivent sortir. Et cette chose-là, c'est la même chose pour les yeshivot. C'est la même chose pour la maison juive. C'est la même chose pour chacun des Ben Israël et des Bnot Israël. Si jamais tu as ce yesod-là, tu es tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit, Chazanish? Il a dit, si jamais nos fiels sortent de séminaire, en sentant que Gdola Shulchanenu Mishulchanam, que notre table à Noël vaut plus que celle de Wall Street, et celle de Beverly Hills, et celle de Frère Scott, et celle des Marseillais avec Panga, les fous. Il te dit, le Marseillais de la prairie et tout. Il te dit avec Pagani ou Paga, ou je sais pas comment le panda là-bas se fout. Oui. Il te dit, si jamais les gens ils sentent que notre Torah, nous, notre table à Noël vaut plus que celle de Wall Street et de Beverly Hills et de Las Vegas, on est tranquille. Mais si jamais, mes frères, on croit que là-bas l'herbe du voisin elle est plus verte que la nôtre, on est foutu. C'est la raison pour laquelle, Rabotaï, c'est qu'on doit être méchadrek à nos enfants. Que la Torah, déjà, c'est la lumière. Que la Torah, c'est notre vie qui aime chayenu ver, qui aime nouvaem negeyomam valaïla. Et ça, ça a été le sortage du peuple juif. C'est marqué dans le pasouk. La Yehudi maïta ora vesimcha vesasandika. On a dit que pourquoi ils ont failli mériter l'extermination? Parce qu'ils ont kiffé la Seouda. Quand ils étaient avec les nations et les peuples, ils ont dit purée, les gars, ils kiffent, nous on est des mesquinim et tout ça. Ça, c'est quelque chose que si tu n'estimes pas ton héritage, tu peux t'assimiler. Donc c'était quelque chose qui venait mettre en péril la pérennité de Klal Israël. Comment ils sont sortis d'affaire? La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Nous dit la Gemara Kedosha, c'est quoi cette phrase-là? La Yehudi Maïta Ora, Ora Zotora. Simcha c'est Yom Tov. Sason et Vikar c'est les Tefilin. Et c'est Rabotai, la Brit Mila. J'ai pas compris ce qu'ils veulent là. Ils sont en train de nous faire un rébus ou un sudoku, un nunchaku, c'est quoi? C'est une charade quoi? C'est le Picsou Magazine, Habibi. Depuis quand on nous fait des devinettes dans la Torah? Habibi, Tarbit, dis-moi directement l'affaire là. Là il y a le Dimaïta, Tfilin, Torah, le Yom Tov et le Brit Mila. Pourquoi tu me fais des mots là et il faut faire des contrats d'association là-bas? Mon premier était, je dis en trois syllabes, et le deuxième là-bas il s'est caché par après. Rabotai, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, Moraï Verabotai, j'avais entendu un pshat qui fait revivre extraordinaire. Les Bnei Israël, ils savaient, ils étudiaient la Torah Kedoshah, ben, ils croyaient que la Torah c'est quelque chose de rébarbatif et de redondant. À partir du moment où ils ont senti la Yehudi Maïta, Ora, Ora c'est la lumière, Ora Zotora, la Torah c'est la lumière. Le Simcha et Sason Vikar, c'est terminologique et c'est la Simcha, pas qui fait le Yom Tov, qui se porte juste son nom. Mais il porte tellement mal son nom. Ça. Tu vois le gars en train de truquer avec sa longue vue et de dire purée, ces trois étoiles, quand est-ce qu'elles vont venir? Ces nous robots d'étoiles là. Ah, le théorème de Thalès qui était la grand-mère de Pythagore. Voici d'après la trigonométrie de l'isobaricentre, là-bas de l'isocèle, de l'équilatéral, de l'équidistant. Je crois que l'étoile est en train d'arriver. Et tu vois le type à côté de son téléphone là qui attend le starting block. Ah, là-bas, Javier Sotomayor et Carl. Allez les gars, c'est la fête au village. Le téléphone. Ben, je comprends le pauvre. Les gars, ils peuvent pas rester 39 secondes sans toucher le microphone. Et là, ils restent pendant 24. Il pète les plombs totalement. Et tu vois l'autre avec là-bas, il s'est déjà préparé ses garrots là-bas. Les gitanes roulaient là-bas, il les a tous en ligne là-bas. La Yehudi, Maïtao, Rosh. Il fait les Bessamim là-bas, sur le Maroc, de la combustion et tout ça. Il fait là-bas, les Bessamim, il est en train de les faire sur l'odeur de la cigarette. Le type, il pète les plombs. Si jamais toi, tu penses que le Yom Tov, c'est quelque chose, ça te prend la tête. Et que la Brit Mila, ouais, purée, la Brit Mila, c'est vraiment la tannée et tout ça. Et les tefillin, alors, ouais, franchement, on n'a pas le droit de penser à quoi que ce soit d'autre. La Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Sassandika, ils ont chéri l'héritage et le patrimoine, et ils ont senti que c'était les plus grands milliardaires du monde. À partir du moment où on a senti ça, Rabotai, on est sorti de la galoute et de la galère. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a été menacé de perdition, parce qu'on croyait que la Torah c'était une prise de tête et un fardeau. Mais dès qu'on a senti que la Torah c'est notre lumière, et que tous ces ignanim là, c'est la simcha, c'est la joie, c'est vika, c'est sason, c'est la chose la plus magnifique, Az le Klal Israël a été délivré. Il a été, Rabotai, sauvé de l'extermination et de la solution finale, parce que quand tu estimes la Torah Kedoshah, alors c'est tout le peuple d'Israël qui peut avoir le salut et la sauvegarde. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit, ce Mzrob de Haman, dans la Haggadah, dans la Megillah. Une phrase qui avait été reprise par son successeur funeste, qui était Hitler dans Mein Kampf. Yeshno Amechad, Mefuzar ou Meforad, Verhu Yoshev Ben Amim. Il existe un peuple qui est disséminé auprès des nations. Et voilà que ce peuple-là, il s'assoit avec chacun. C'est quoi cette chose-là? Ça veut dire, il vient dire qu'on s'est assimilé. On s'est assimilé, qu'on a marché avec eux, qu'on a vécu avec eux, qu'on voulait épouser leurs us et coutumes, qu'on avait honte de notre identité, qu'on voulait se fondre au décor et à la masse, et qu'on était heureux de se trouver avec eux. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Yeshno Amechad nous dit la Gemara Kedoshah, Yeshno Yoshnim Bamitzvot. Vous savez pourquoi on peut les attaquer, ces juifs-là? Parce qu'ils se sont endormis dans les mitzvot. Ils viennent à la Sina, les gars. Ils viennent au Shiur. Mais après quelques minutes, Odrob Habib, il est en train de dormir, faire la Shibani, le type. Chabou, t'es zinzin ou quoi? Je dis une fois, je sais que la Torah Kedoshah peut te ressusciter des morts. C'est pour ça que je ne dis pas le chiant trop fort quand je suis à côté de Givat Shaul, j'ai peur que tous les gars ils vont se lever d'un coup et tout ça, tu traites un médecin direct. Et ils te disent, Abtora, je me suis aperçu ces derniers temps que tu peux faire dormir des vivants aussi. Tu vois, le type là en train de dire en Abtora, Chaboub, t'es zinzin ou quoi? Yeshnim Bamitvot. Il va à la Tfila, faire le boulet d'Alcatraz au pied, faire le prisonnier de la campagne. Il va là-bas faire une villa, sa mère elle lui demande là-bas de l'air. Ouais, maman, purée, on est plusieurs frères et sœurs, pourquoi ça tombe toujours sur moi et tout ça? Habibi, si jamais tu crois là-bas, Yeshnim Bamitvot. À partir du moment où les Bnei Israël dormaient dans les mitzvot, on a été dans une situation divine. Parce que quand est-ce que tu peux dormir? C'est quand tu sens pas que la Torah c'est ta vie. J'avais demandé une fois à Rav Steinman sur Abraham Kanievski, comment c'est possible qu'il n'oublie jamais les livres Torah qu'il a étudiés? Il lui dit parce que lui, pour lui c'est la vie. Comment il peut rester 18 heures par jour en train de Steigené? Il t'a dit parce que pour lui c'est la vie. Si jamais il arrête d'étudier, c'est comme s'il arrête de respirer. C'est la même chose pour un businessman, Rabotai. Le type, il est en train d'engranger des billets de 500 et tout ça de tous les côtés. Helpixou, il plonge dans les caisses, ça lui sort par les oreilles, par le nez. Il te dit, le type, il trouve des forces pour aller voyager d'un endroit à l'autre, d'un continent à l'autre, de circuler, de tourner. Il pète les plombs totalement, le gars. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en train de rapprocher beaucoup de choses. Quand est-ce que tu es Yoshen Bamidot? C'est quand tu n'estimes pas les Midot. Donc quand les Bnei Israël, ils sont venus et se sont ressaisis en sentant la Yehudima et Taora, la Torah, c'est pas le sommeil, la Torah, c'est la lumière. Ah, à ce moment-là, ils ont été sauvés. Et d'ailleurs, le tikkun, encore une fois, le peuple d'Israël, sa survie et sa sauvegarde, elle dépend de ces deux aspects-là, d'être solitaire et solidaire. Mais Fouzar ou Meforat, ça veut dire qu'on s'est disséminé par rapport aux nations, on a perdu notre solidarité, et on a perdu notre aspect là-bas de notre spécificité et de l'intégrité du peuple d'Israël, qu'on doit être ensemble, et Ardout Gmoura, ne pas se séparer, ne pas se mélanger, rester entre nous, raison pour laquelle toute la réparation de cette faute qu'ils avaient fait de se disséminer, de s'éparpiller, c'était Mishloach Manot. Et c'était Matanot Laïdonim, le cadeau aux pauvres, pour restaurer la fraternité, l'harmonie. Mishloach Manot, pour pouvoir rapprocher les clercs du clan Israël. Et tous ces inanimes-là qui visaient justement à refaire en sorte de montrer la grandeur du peuple d'Israël, le fait qu'on doit être heureux et unis, parce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, de notre même Père. Ce même Yesod, qui nous a fait sortir de la galère, au moment de Pourim, Il nous a fait rentrer dans la galère à Pessah, il nous a fait sortir de la galère à Pessah. Et c'est marqué dans Yirmiyahu HaNavi, dans une juxtaposition qui est entre les psukim, entre les versets, que de la même façon qu'on est rentré en Mitzrayim et qu'on est sorti d'Égypte, on va rentrer dans la dernière galère, la dernière galoute dans laquelle nous sommes, et on va en sortir Bédrat Hashem par un raisonnement qui est parallèle. Le pasouk nous dit, mais moi Yosef et Kol Echav et Kol Adoraou, ils sont morts, Yosef Hatzadik, ses frères et toute la génération. Bnei Israël, paro vaishretsu veyavu vaitzmu bim od meod vatima l'aretzotam. Les Bnei Israël, ils ont proliféré, ils ont fructifié, ils se sont multipliés. La terre en a été emplie. Voilà, comme Melech Hadash al Mitzrayim achalou yadet Yosef. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef ou qui feignait de ne pas le connaître. Marloguet entre Rav et Shmuel dans la Gemara dans Sota, la page 12. Est-ce que c'est un nouveau roi ou est-ce qu'il a renouvelé un décret sanguinaire et antisémite contre le peuple d'Israël? D'un côté comme de l'autre. On est en droit de se demander comment ce rachat de Paro, il peut avoir une politique antisémite et drastique et draconienne contre le peuple d'Israël, alors que eux sont à l'origine de l'hégémonie et de la superpuissance économique mondiale. On se rappelle que le conseil a visé Yosef HaTzadik, qui avait demandé d'épargner pendant les 7 années d'abondance pour ne pas qu'il soit dépourvu quand la bise fut venue, comme disait le Rav Jean de la Fontaine dans la Vachalom, et de dire, Habib, ils ont fait là-bas un plan d'épargne de qualité là. À ce moment-là, tu dois leur avoir la reconnaissance. Le gars, il rabota, il y a un puits dans lequel tu as bu, tu jettes une pierre dedans. Celui qui t'a fait du bien, tu lui mets une trehafaras. Et de la reconnaissance un peu. C'est le principe même de l'humanité. Rabota, il y a quelque chose de contre-nature ici. Explique les commentateurs. Après, Shmulevich nous rapporte ce Yesod dans un chiour qu'on appelle le respect de soi. Il est très puissant. Le roi Chaim HaKadosh nous dit que l'esclavage en Égypte a été crescendo. Voyamot Yosef, ve kol echa, ve kol adorahu. Il est mort Yosef, ses frères et toute la génération. Dit le Rav, tant que Yosef HaTzadik y vivait, les Bnei Israël étaient supérieurs aux Égyptiens. Yosef HaTzadik il est mort, on est devenu égaux. Les frères de Yosef ils sont morts, on est devenu inférieurs. Mais l'esclavage n'a commencé qu'après que la dernière personne contemporaine à la génération de Yosef s'est éteinte. Ça veut dire que tant qu'il y avait encore une personne, il n'y a pas eu d'esclavage. Pourquoi, Rabotai? C'est une ségoula? Pas une ségoula. Les Yosef HaTzadik et ses frères et toute cette génération, ils sentaient, Rabotai, que c'était des patrons sur lesquels le monde repose. Ils sentaient que c'était des Bnei Melachim et les fils du roi, Vaïk, Bali, Bobedar, Kachem. Ils sentaient, Ashrenu, Matov, Relkenu, Manaim, Goralenu, qu'on est les plus grands milliardaires du monde. Et quand quelqu'un, il sent sa grandeur et sa majesté, on ne peut pas la servir pour deux raisons. Premièrement, je te dis, le gars qui est en face de toi, qui est censé être ton maître, il n'a même pas la capacité d'être ton esclave, tellement c'est un genou. Donc si jamais il ne peut pas être ton esclave, il va être ton maître. Il te dit, tu vois quelqu'un qui est beaucoup plus sain que toi, et beaucoup plus grand, et beaucoup plus digne de prestige et de louange. Tu vas venir l'assujettir? Tu ne peux pas. Et la personne, bifnasma, en elle-même, intrinsèquement, te dit, quelqu'un qui sent sa valeur et sa grandeur, il va accepter de faire des tâches serviles. Il va accepter de faire des choses qui vont le rabaisser. Ils n'acceptent pas une chose pareille. Donc tant qu'il y avait Yosef et ses frères qui sentaient la grandeur à Botaï, de Klal Israël, personne n'a pu faire quoi que ce soit contre nous. Dès qu'on est venu à Botaï, ils sont morts. C'est une génération de gens qui croient qu'ils étaient comme des Égyptiens, qui vivaient comme les Égyptiens, qui ont voulu adopter les us et coutumes des Égyptiens, se fondre au décor à la masse. À ce moment-là, l'esclavage il a commencé. Et il nous dit le Rav quelque chose d'incroyable. Et de la même façon que Pharaon, il a assujetti les Bnei Israël, le Yetzara, il a assujetti chacun d'entre nous. Vous savez comment ils nous font faire des verrodes à Botaï? Il te fait penser que tu es un zabot de la prairie là-bas. Falanan Jardin, Fal Blanche-Neige et les Sept Nains et Pikachu là-bas, le chat jaune qui envoie l'électricité. Vous vous rappelez de lui, Pikachu? Il était Pika Pikachu. Là-bas, il est un petit jaune comme ça, il envoie l'électricité, ce fou. Il te dit, me laisse tomber, Rabou. Tu es un genou de quartier, tu ne vaux pas, tu ne vaux rien, tu es quelqu'un de petit, tu n'as rien, tu es une poubelle. Quand quelqu'un il sent qu'il ne vaut rien, Rabotaï, il peut faire les plus grosses averrodes du monde. Tant que tu as conscience de ta valeur inestimable, Yetzirara, il n'a pas de prix sur toi. Mais à partir du moment où tu te fais descendre de ton piédestal, puisque tu n'as plus confiance en toi, tu peux faire les pires choses qui peuvent exister. C'est pour ça qu'on doit riposter à ça en sentant notre grandeur et notre gadlout, mes frères. On doit sentir qu'on est les enfants de Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. On doit sentir qu'on a ce mérite exceptionnel d'être les enfants du roi. Et quand tu es là-bas, une bat Melech, une fille de roi, la fille d'Akadosh Baruch Hu, et que tu es un ben Torah et un ben Melech, noblesse oblige. Tu ne peux pas te balader en champ du comptoir des cotonniers, en marcel de petit bateau et en tonga Rennes. Parce que pas parce que c'est terminé ou interdit seulement. Il dit parce que c'est pas de ton prestige et de ton rang. Il y a des paroles qui ne sont pas à dire dans la bouche d'un ben Torah et d'un ben Melech. Il y a des endroits qui ne sont pas à fréquenter quand on est là-bas, un ben Torah, un ben Melech, et une bat Melech, une princesse d'Israël. C'est comme ça, Rabotaï. C'est la meilleure bouclier pour la chimera, c'est de sentir notre valeur extraordinaire. On doit sentir, Moraï Vraway, qu'on est dépositaire de cette Neshama Yehudite. Elokai Neshama, Shenatata Biteora. Tu as, Rabotaï, en dedans de toi, Chelek Elokabima, une Neshama d'une pureté extraordinaire, qu'elle est plus simple que les Malachacharet, que les anges de service. On a une partie d'Akadosh Bokho à l'intérieur de nous, on est les plus sains de toute la création, Rabotaï, Kdoshim, Tiogi Kadoshani. Il y avait une avamina qu'on est presque aussi sain que Akadosh Baruch Hu. Yachol Afinu Kavoni, Ani Hashem. Gdushati, Gdolani, Gdushatrem. La seule chose qui nous distingue dans notre santé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus sain que nous. Mais sinon, Rabotaï, on est les plus sains de toute la création. Quelqu'un qui a conscience de ça, personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Tant qu'on était fiers de notre identité. Tant qu'on affirmait et qu'on clamait haut et fort qu'on était les enfants d'Hachem, comme Yosef HaTzadik qui est venu dire à Pharaon, Bilada, Yayokim, Yanet Shalom Pharaon, c'est Dieu qui interprète les rêves, c'est pas toi. C'est pas moi. C'est Akadosh. Mais t'es fou. Lui se prend pour le Dieu et toi tu lui dis que c'est lui qui interprète les rêves. Il a peur de personne. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, le patron du monde et le patron de l'univers. Et si je trouve grâce aux deux de papa, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. Les Juifs, à partir du moment où ils sont descendus de Yosef HaTzadik et ses frères et toute cette génération, ils ont voulu se prendre au décor et à la masse. Ils ont voulu s'attirer les faveurs d'une nation en renonçant au principe directeur de leur conscience. Ils se sont rendus coupables de ce qu'il avait dit le Orsamé à Rabotaï. Rav Mir Simcha Mitvinsk. Il a dit, si jamais les Juifs ne font pas le Kiddush, les nations feront l'Avdallah. Si jamais nous on ne vit pas en sanctifiant et en ayant étant fiable notre patrimoine, notre héritage, notre identité juive, As les nations, ils viendront te rappeler que tu es un Ben Israël et que tu es un juif. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on s'assimile et qu'on se perde. Donc, il te rappelle que tu es différent et que tu es là-bas le fils d'Akadosh Baruch Hu. Par amour pour nous, Akadosh Baruch Hu, il tourne le cœur des nations et des peuples pour ne pas qu'on se perde et qu'on s'assimile. Parce que si jamais il n'y avait pas eu d'antisémitisme à travers les générations, on ne serait pas assis ici ce soir à Kulano. On aurait été perchés dans la prairie Rabotai. On n'aurait pas été là-bas des Bnei Israël et des Bnei Torah parce qu'on nous aurait accueillis à bras ouverts, on aurait disparu. Encore une fois, on voit d'ici que tout l'esclavage, il a commencé. À partir du moment où on a perdu de vue que nous étions les enfants d'Akadosh Baruch Hu et qu'on avait une fierté de notre identité, de notre patrimoine, de notre héritage et qu'on sentait qu'on était les plus grands milliardaires du monde. Comment sommes-nous sortis de ce système-là? Par le Korban Pessah et par le Korban de Mila. Dame Pessah et Dame Mila. Les juifs, ils avaient tellement honte d'être juifs qu'ils ont arrêté de faire la brite. Vous savez ça? Ils n'avaient plus la brite Mila. Juifs à l'intérieur et goy à l'extérieur. Tu dis, ils vont venir, ils ont voulu se fondre au décor et à la masse. Ils ont dit, nous, on vit comme les Égyptiens. Ils sont venus, Moray Verabotai. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Ribono Shelolam, nous faisons la brite Mila pour montrer que toi, tu es notre père et que nous, on est tes enfants. On est fiers d'être tes bannis, Ribono Shelolam. On ne va plus se cacher de ça. Au contraire, on s'enorgueillira. La veille de la sortie d'Égypte, tout le clan d'Israël est venu réaffirmer la souveraineté d'Hachem et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, on est mis près d'être banni, matin, la chaîne locale, que nous sommes ses enfants et que lui, c'est notre père. On n'a plus honte de notre identité, on l'a réaffirmé, on l'a clamé haut et fort. Et à ce moment-là, quand on a été fiers de ça, c'était Rabodai comme à Purim, quand on est venu de la Yehudi Maïta au Rave Simcha, on était fiers de notre rétorak, de chaque, de notre patrimoine, de notre héritage, as on est sorti de la galère dans laquelle on était. De la même façon avec là-bas, dame de Korban Pessah. Korban Pessah, Rabodai. Tu sais ce que c'est? Les Juifs prennent là-bas une vache kiri. Ou là-bas, Bindi Babibel, c'est toi qu'on aime. Kiri, kiri, kiri. Ouais. Ou la vachette d'Interville, là, les chaumons. Ouais. Tu prends une vachette d'Interville, Chaboub, et tu l'attaches au pied du lit, comme on va faire Shabbat, le Shabbat à Gadol. C'était ça, ils ont pris l'animal. Oh, réveille les Égyptiens. Que fait notre Dieu attaché au pied du lit? Je lui dis, t'inquiète pas, Habibi. D'ici quelques jours, la vache Kiri passera de l'état de Khalavi à Bassari. Elle deviendra un shawarma dans l'Othéman. T'es fou? Quoi, tu vas faire un barbecue avec notre Dieu? Mais t'es ma boule, c'est interdit. Notre Dieu nous a demandé de prendre ton Dieu et de faire un shawarma avec. Rabotai, les gars, ils auraient dû péter les plombs normalement. Le peuple est en esclavage et en servitude pendant 210 années. Et maintenant, du jour au lendemain, tu prends toute la divinité du peuple de lequel tu es esclave et tu lui fais une shrita. Et les parotes, ils auraient dû au moins respecter les lois de la diplomatie et faire ça à huis clos dans la cuisine. C'est ce qu'ils font. Quand tu fais cuire de la viande, ça sent l'odeur de tchabeb, quand tu la fais bouillir, que dans la cuisine. Mais là, à Bouteille, ils ont fait mangal. Il prend là-bas le barbecue, il te fait pire soumenissa. Le type, gros, oh, purée, mais ça sent notre Dieu, alors que se passe-t-il? Ouais, Khaboub, t'inquiète pas, ils sont en train de faire un barbecue géant là-bas avec toutes vos dits. Mais ils vont te faire le shawarma, toi, c'est toi qui vont te faire la shrita. À Bouteille, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont eu peur de personne. Le roi et Mimeter, ils ont eu peur de personne. Ils ont dit, Anachnou ma'aminim ben ma'aminim. Elle a noal mille isha'en. Elle a la binou sheva shamaïm. On n'a personne sur qui reposer, ni les CRS, ni les types avec les terbouches là-bas, ni les gars là-bas de l'ONU, ni du G7, ni du G8, ni là-bas des Ban Ki-moon et Sushi West que je vous disais tout à l'heure, ni là-bas Kofi Annan et son grand-père, ni les types de Donald et Pluto et Mickey, ni Macron, le Macron blanc. Personne à vous dire que Akadosh Baruch Hu, que lui c'est le patron du monde et lui c'est le patron de l'univers. Quand on a réaffirmé la souveraineté d'Hachem, que c'est lui le patron et qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir d'affaires et qu'on était fiers de notre identité, à ce moment-là, Rabotai, les Bnei Israël sont sortis, 5 millions de personnes sont sorties d'Égypte. Le même jour, dans un endroit dans lequel Mitzrayim, la chaîne Metzarim, Metzarim ça veut dire la double étroitesse, que jamais aucune personne ne s'était échappée et égarée de là-bas. Ils sortent Rabotai tous en linge. Ils ne sont pas sortis la nuit. Ils sont sortis Be'etzem Ayomazé au moment où le soleil est au zénith. Pour ne pas que les gars disent, ouais, si vous étiez sortis le jour, on vous aurait coursé, mais là on est en train de dormir. Khaboub, je vais te faire sortir au moment où le soleil est au zénith, et que celui qui veut venir se frotter à Kadosh Baruch Hu, qu'il vienne. Et puis il n'y aura pas un claque-doigt, comme on dit chez nous. Viens, Khabibi, tu veux faire le fou avec Kadosh Baruch Hu, viens faire ton baboule, viens, tu veux te menacer, tu veux te mesurer, viens te mesurer, on va voir qui c'est qui va avoir le dernier mot. Abu Dhabi, ils ne sont pas sortis là-bas une main devant, une main derrière. Ils sont sortis avec toutes les richesses de Mitzrayim. Ils rentrent dans les maisons et disent, dis-moi, j'ai vu la lampe d'Aladin, là, de qualité supérieure. Quand on la frotte, il y a le génie qui sort avec la pierre bleue des lattes là-bas, ou là-bas le petit saphir ou l'émeraude de quartier de qualité supérieure. J'ai vu là-bas, tu pourrais me faire un kiff de me donner. Bien sûr, prends-en deux, prends-en trois. On a assisté à une scène que même à Hollywood, à Bouddha, même à Walt Disney Pictures, ils n'ont pas pensé à ça dans Big Bang, le Coyote et dans Tom et Jerry là-bas, et là-bas les Tasmania et les cerfs. Ils n'ont pas pensé à ce truc-là. On voit à Bouddha les maîtres qui sont en train de courir après les esclaves, pas pour les rattraper, les empêcher, les dissuader de partir, pour les supplier de partir, faire le lièvre, quand il y a le meeting, là-bas il y a un lièvre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu là-bas, il doit courir très très vite le type et tout ça pour que les gars ils soient motivés de courir très vite. Et après tu le retrouves en train de cracher ses poumons là-bas. Comme rien ne sert de courir sans chariose, comme on dit chez nous, dans la pub des écrans de Flex. La cigale et la fourmi, et ça ne partait pas trop vite, il faut partir à temps et tout ça à point. Il te dit, Abu Dhabi, le gars il court là-bas, et donc c'est les maîtres qui sont en train de courir après les esclaves, et pas pour les dissuader de partir. Eh hey, les gars, attendez une seconde, vous avez oublié cet or, et cet argent, et ces diamants, et ce vinyle, et toutes ces matières précieuses. Abu Dhabi, c'est un truc surréaliste. Tu vois là-bas les maîtres qui courent après les esclaves pour les supplier de les vider de toute leur richesse. Comment c'est possible une chose pareille encore une fois? À partir du moment où nous sommes revenus à la statue de Yosef HaTzadik et de ses frères qui avaient conscience de leur valeur inestimable, qui avaient conscience qu'Hachem c'est le patron du monde et qu'il n'y a personne qui dirige si ce n'est lui dans le monde, à ce moment-là, Abu Dhabi, on a mérité de sortir de la galère dans laquelle on était et on a mérité, Abu Dhabi, la délivrance. Il en va de même pour aujourd'hui. Je vais vous dire, s'il y en a qui ne reçoivent pas chaque jour, on envoie un petit chien, ça s'appelle une goutte de lumière pour illuminer la journée. S'il y a des tzadikim, je vois que c'est en train de pucher le téléphone, il ne peut pas se passer, les gars. On est des victimes de la mode télé, son nom de code XSMC Solar à Bouddhaï. Vous savez une chose? Qu'on a fait une étude, que c'est plus difficile de se séparer là-bas de la dépendance aux nouvelles technologies que de se séparer, pas de la combustion du Maroc. Que les types ils fument là-bas quelques trucs révolutionnaires et qu'ils parlent avec les oiseaux là-bas. Ils croient qu'ils vont solutionner leur problème en se mettant là-bas quelques-uns, des petits là-bas. Là-bas, ils se roulent des battes et ils s'éclatent le bocal. Il paraît qu'on est dans la dernière pluie ou quoi? C'est-à-dire, Rabou, le gars, il croirait, c'est bon, on parle avec les oiseaux, c'est la fête au village ce soir et tout ça. Fait le bang, il se met la plume, fait la balandière dans la ville et tout ça, il est en train de faire là, des petits. Rabou, tu crois que c'est comme ça que tu solutionnes des affaires ou quoi? Tu dis plutôt que de te décaler de la réalité. Décale-toi à toi pour te mettre en phase avec la réalité. Parce que si tu crois que tu vas te sauver là-bas des problèmes, il revient comme un boomerang, il te tabasse la tête. Il dit, je ne parle pas de la dépendance des drogues douces. C'est plus difficile de se séparer là-bas de la dépendance aux nouvelles technologies que de se séparer de la drogue dure. La drogue dure à Bouddhaï. Les gars, ils touchent en moyenne tous les 39 secondes le téléphone entre 300 et 400 fois par jour. Imagine-toi.
Mais c'est vous qui avez dit, c'est vous qui avez dit, hein? Ah, ça, j'ai pas excité vous, parce que le téléphone en même temps, ça aurait été magnifique. J'avais jamais vu ça. C'est comme le gars qui fait là-bas, le professeur en cancer revenu pulmonaire qui est en train de te faire là-bas un petit juron et ça, oui, donc monsieur, la répercussion des poumons, de la nicotine là, sur la paroi pulmonaire du décollement de la façade ouest, sud-ouest, nord, périphérique, là, de la prairie, donc par voie de conséquent, parce que ça fait bien de dire, oui, mais oui, donc cornica, les conventions de coordination quand tu termines une phrase, quand t'es professeur, ouais, je me vois dans l'obligation de mettre vos poumons en mode veille, ouais. C'est-à-dire, le type qui te dit ça, qui est professeur en croissance pulmonaire, il te file 3 paquets de gitane par jour. Ouais. Hiroshima et Nagasaki, c'était de la littérature à côté. Tu vois, le type, c'est un pompier, c'est un fumier, c'est une auberge là-bas, tellement il a... Tu rentres quand dans son cabinet, t'es pas un fumeur passif, t'es un fumeur actif, tellement il y a de la fumée là-bas. Il te dit, bon, donc je vous disais, Rabbi Taïl, et je leur dis à mes élèves de la Yeshiva Torah d'Israël, les gars, je me dis, Rabbi, tu dis que tu nous aimes tout le temps. Et qu'on est la prunelle de tes yeux, et que tu as sacrifié ta vie pour les enfants d'Israël, pour leur transmettre l'amour de la Torah. Dis-nous, maintenant qu'on est venu chez toi, là, j'y vais rêver. Quand tu pars là-bas en voyage, tu vas voir les gens. Tu ne t'oublies pas, rêver, hein. Quelques cartouches pour nous. Je dis, Habibi, tu vois le paquet de clopes, c'est marqué là-bas, fumez-tu. En gros, là-bas, il est en train de t'interpeller, il te parle, il te dit, fumez-tu. Et tu vois l'autre marabout du rasso avec sa famille autour de lui, avec le masque là-bas. Il a 36 ans, son poumon est en orbite là-bas, sur les Spoutnik là-bas, il est parti dans le décor. Tu vois la compo. Je dis, Raboum, tu vois pas Kamalek, il est en train de te parler, te faire des pieds de nez. Les gars, ils voient là-bas le truc en face de leurs yeux. Et ils n'arrivent pas à se sortir d'affaires. Je vous dis, par rapport à la dépendance de ces nouvelles technologies, un petit truc à vous dire avant de partir. qu'on a vécu, on vit dans une génération dans laquelle les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés qu'aujourd'hui, et dans lequel on n'a jamais aussi mal communiqué qu'aujourd'hui. Il y a des types qui ont fait des kilomètres pour se voir, et ils sont tous en table en train de parler à des gars qui sont à 10 000 kilomètres. J'aurais dû rester là-bas, ils m'auraient parlé plus facilement que si je viens devant lui, Rabotaille, c'est quelque chose de tout à fait absurde. Et malheureusement, c'est à l'origine de la destruction de tellement de couples, tellement de foyers. Toute l'utilisation qui n'est pas filtrée de l'internet et des nouveaux moyens de communication. On a des fils qui peuvent nous protéger, nous préserver. Et l'Eman Hachem, pour la gloire du patron, d'éteindre notre téléphone pendant les shiurim de Torah, Rabotai. Les shiurim de Torah, éteindre le téléphone, connecte-toi avec Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruch Hu. Mets-toi en fibre optique et en connexion ADSL là-bas, Habibi. Seule connexion homologuée par le ministère des Barbichettes que nous représentons. Tu te donnes pour les balancer par la fenêtre. Mets-toi avec Hachem, tu rentres chez toi le soir, éteins ton téléphone, tu consacres du temps à tes enfants, à ta femme, tu te retrouves un petit peu. Tu empêches là, ce téléphone de faire intrusion dans ta propriété privée qui est ton foyer, ta maison. Aoudaï, tous les problèmes de l'internet et des nouvelles technologies, elles ont détruit, elles ont décimé là-bas toute la génération dans laquelle on est. 59% de divorces dans la communauté du française, comme on dit tout à l'heure, qui sont consécutifs à une utilisation non filtrée des téléphones. C'est-à-dire les types, ils se font tarabuster la tête, ils n'ont même plus la tête pour faire quoi que ce soit. On est en train de te détruire toute ta capacité de concentration, de réflexion, tout ton attachement à Kadosh Baruch Hu, toute ta méditation, toute ta pensée, tout le fait de t'interroger pourquoi tu es venu dans ce monde-là, avec le Facebook, Face de Chef, Face de Chameau là-bas, et le Snapchat de la prairie, et l'Instagram là-bas, et tous les frères Scott et leur grand-mère là-bas, et tous ces gens qui étaient là. Et ils te disent, les gars, ils te mettent dans un matzav dans lequel ils sont complètement ailleurs, ils sont perchés, ils n'ont pas le mérite de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où on a dit que les Bnei Israël ils sont revenus à la conscience et à la connaissance que la Torah Kdosha c'est la chose la plus nifla'a qui soit dans le monde et qu'ils ont réaffirmé que c'est Dieu le patron, on a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on a pu sortir là-bas de la galoute de Mitzrayim. Je termine sur cette parole extraordinaire qui se trouve dans la Haggadah. Elle est marquée là-bas. Mar Abelazar ben Azaria. Il a dit Abelazar ben Azaria. Areani ke ben Shivim Shana. Il a dit, Rabbi Elazar ben Azaria, dans l'introduction de la Haggadah, il a dit, je suis quelqu'un qui est vieux, comme un septuagénaire. Et je n'ai pas mérité que soit dit la sortie d'Égypte. Ah ouais, je vous le disais pour le téléphone, moi j'ai cette petite entourloupe. Je lui ai dit, faites passer un téléphone avec vos mails, comme ça je vous envoie chaque jour une petite goutte d'Emouna pour une nouvelle journée. Ça sort de l'esclavage égyptien de Wall Street, 5 minutes par jour. Rabbeinu, c'est vous qui allez faire passer votre téléphone, ça dit. Ouais. Faites passer votre téléphone à tout le monde, comme ça ils mettent. Non, vous voulez pas, il est confiant. Hein? Non? Vous voulez pas? Qui c'est qui veut faire cette mitzvah? Pour une fois, je connaissais pas cette technique-là, elle est bonne. S'il y avait quelqu'un qui veut passer un téléphone pour mettre vos attachés, tous les mails de tout le monde, comme ça après moi je reçois les mails, je vous envoie à chacun qui veut recevoir 5 minutes de Torah par jour, comme ça on reste connecté, on a affaire, et si quelqu'un il a besoin de nous parler, on pourra lui parler. Qui c'est qui peut passer son téléphone? Sirata Echal. Hein? Alors écoutez bien Rabotai. Rabelazar ben Azaria, il a dit, moi je suis comme un septuagénaire. Et je n'ai pas mérité que soit dit la sortie d'Égypte le soir dans le schéma Israël, jusqu'à ce que vienne dire Ben Zoma, le pasouk lama, que tu vas mentionner la sortie d'Égypte, kol yeme chayecha. Yeme chayecha ba yamim, kol yeme chayecha ba lelot. Dis-moi juste, c'est Mechayecha, les jours de ta vie, c'est quoi? Tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie pour le jour, et tous les jours de ta vie pour inclure aussi la nuit. Donc avant, il faisait le schéma, mais il ne disait pas Ni Hachem Elokim, Macharot, c'était très merde, Israël, Nidat Lachem Elokim le soir. Il disait que les deux premiers Prakim, les deux premiers chapitres de schéma, mais il ne faisait pas le troisième. Demande Rav Itzalel Zilberstein, un des Gdolim chez nous à Bnebra, qui est le beau-frère de Rav Chaim Kanievski et le gendre de Rav Eliashiv. Il a dit une fois, Rav Eliashiv, il a demandé la question de savoir comment ça se fait qu'on met ce Mahama Chazal, ces paroles de nos sages, qu'on les place en introduction de la Haggadah. Ça n'a rien à voir avec la Haggadah. Ça n'a rien à voir avec le soir de Pessah. C'est quelque chose, cette machloquette là, cette controverse doctrinale entre les sages et Rabbi Elazar ben Azaria. C'est une controverse qui a trait à toute l'année. Est-ce que oui ou non on va faire le schéma Israël, le troisième Pérec le soir ou pas, et on va mentionner la sortie des livres, c'est pas quelque chose. Koulé Alman Opligé, tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Elazar ben Azaria ou les Chachamim, qui sont d'habitude en machloquette, en controverse, que le moment de Pessah, il y a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Veigata le bincha bayamahu, bisman, chez Matzah ou Maror, Mounachim le panecha, quand la Matzah et le Maror sont devant toi, tu dois raconter la sortie d'Égypte à tes enfants. Donc à quoi, comment ça se fait qu'on est en train de te dire de faire cette parole-là, qu'on est en train de te mettre cette parole dans la Gada. Qu'est-ce que ça a à voir? Pour répondre à la question à Shlomo Levinstein, on a commencé par lui, on va terminer par lui dans ce shiur magnifique. Il a apporté un yesod incroyable. Rabbi Eliashiv nous dit que toute la finalité de la Haggadah, elle est pour nous inculquer qu'il y a un patron dans le monde et dans l'univers. Il s'appelle Melech Malchim Lachim et il n'y a rien qui échappe à sa volonté. Il y a une Gemara dans la Maseret Yevamot à la page 16, folio 1, qui nous enseigne qu'une fois Rav Dosa ben Orkinas, qui était un des géants d'Israël, il était malade. Sont venus trois sages d'Israël pour lui faire la mitzvah de la Bikur Cholim, de lui faire là-bas le soigner et lui apporter là-bas du courage. Il y avait Rabbi Yoshua ben Hanania, il y avait Rabbi Lazar ben Azaria et il y avait Rabbi Akiva. Ils arrivent, on honorait les gens en les faisant asseoir sur Mita Shel Zahav, sur un lit qui était en or. Donc le premier qu'on a fait asseoir, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, il s'est assis. Au terme de quelques instants, il a dit, qui c'est qu'on va faire asseoir à ma place? Il lui dit, faites asseoir Rabbi Lazar ben Azaria. Il s'assoit. Il lui dit, as-tu un fils? Il lui dit, oui. Il lui dit, sur toi, il a dit la parole, Naraiti, Vegam Zakanti, Veloraiti Tzadik Neza Vezarov Akashlachem. J'étais jeune et j'étais vieux, mais j'ai jamais vu un enfant, un Tzadik qui a été abandonné par Dieu. Toujours, il a de quoi prêter à ceux qui sont autour de lui. Il dit, d'accord. C'était parce qu'il était très très riche. Donc il a dit ça à son fils, t'inquiète pas, tu seras refait. Il lui dit, est-ce que je peux maintenant lever quelqu'un? Il lui dit, fais lever. Qui c'est qui va s'asseoir à sa place? Rabbi Akiva. Ça c'est pour les intimes, ça. C'est quelque chose, c'est...
Là c'est éteint, mais ça va.
Hors forfait, ça.
Ouais, ça va. C'est hors forfait.
Ça c'est que ceux qui sont déplacés ce soir qui vont mériter d'entendre cette parole, que c'est vous allez ça. Répéter le soir du CEDER, vous allez les rendre fous à la maison. Voilà. Écoutez bien. Il le dit, le troisième qui s'est assis, c'était Rabbi Akiva. Il le dit, faites-le asseoir sur le lit de d'or. Il le dit, Ata Akiva ben Yosef. C'est toi qui vas, le fils de Yosef, que ton nom, il va d'un bout à l'autre du monde et que ta réputation, elle te précède. Il a dit, c'est moi. Il a dit, Ukanyarbu kamotrabe Israël béni. Si c'est ainsi que se multiplient des enfants comme toi dans le peuple juif. Demande les commentateurs. Comment ça se fait qu'il n'a pas dit ça à Rabbi Lazar ben Azaria? Il n'était pas suffisamment grand pour qu'on lui dise que des gens se multiplient comme lui. Qu'est-ce qui lui manque à Rabbi Lazar ben Azaria? Il répond d'une façon magnifique. Rabbi Lazar ben Azaria, c'était quelqu'un qui était le descendant de Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, la Gemara que ça nous dit dans Masechet Sanhedrin, à la page 17 ou 21, il nous dit la Gemara de Shalaba que si ce n'était que Moshe Rabbeinu l'avait devancé, il aurait mérité que la Torah soit donnée par son intermédiaire et son interstice à tout le peuple d'Israël, tellement il était grand. Donc si on avait dit à un enfant que tu sois grand comme Rabbi Lazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il aurait pu riposter? Te dire, Habibi, moi j'ai pas un ascendant aussi de tzadik. J'ai pas Baba Salé dans ma famille. Ni Rabbi Baruch Toledano, ni le Stapler, ni le Chazonish, ni les tzadikim des générations. Non. Moi je suis un genoun, Habibi. Qu'est-ce que tu es en train de me parler? Moi je vis là-bas dans les métros, je suis avec des gars avec la crinière de Barakuda, l'anneau dans des Fatimo et Pumba, des sangliers de la campagne, t'as l'impression qu'ils sont échappés là-bas des autres. Qu'est-ce que tu veux que moi il va sortir quelque chose de moi? J'ai pas des ancêtres comme ça. Pour ne pas qu'il puisse avoir ce puits trompé là. Ils ont dit ça, Yarbouk à votre abyssal sur qui? Sur Rabbi Akiva, qui était un Ben Guérim, c'est un fils de converti. Il sort de nulle part à Botaï. Il n'a pas d'ascendant Sadikim. Il est là-bas inconnu au bataillon. Et Rabotaï, on lui dit, Yarbouk à votre abyssal, que tu sois grand comme Rabbi Akiva. Ouais, mais Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva, regarde les ascendants qu'il a, il n'a pas d'ascendant. C'est un type qui s'est fait tout seul. C'est un type qui a étudié alors qu'il ne connaissait pas un mot de Torah à 40 ans. Il a décidé de se mettre sérieusement, c'est devenu la lumière de Klal Israël, Rabotaï. Avec ça, on va comprendre ce qu'il nous dit à Boudaï, pourquoi cette parole de Chachamim, de Rabbi Lazar ben Azaria se trouve au début de la Haggadah. Amar Rabbi Lazar ben Azaria, j'ai comme 70 ans et je n'ai pas mérité que soit dit la sortie d'Égypte jusqu'à ce que Ben Zoma soit venu et qu'il ait fait là-bas cette parole. Il a dit, c'est quoi Aré Ani Keben Shivim Shana? Il te dit, Ani, je suis riche. Rabbi Lazar ben Azaria, il avait tous les années 12 000 animaux de Maaser. C'est-à-dire qu'il a chaque année son troupeau, il s'est augmenté de 120 000 bêtes. Deuxièmement, je suis un descendant d'Ilu. Ezra HaSofer était mon arrière-arrière-grand-père. Troisièmement, la Gemara dans Brachot à la page 28 nous dit que quand Rabban Gamliel a été destitué de ses fonctions de président du Sanhedrin, On a cherché dans tout le peuple d'Israël qui sait qui allait le remplacer. Le seul qui a pu endosser cette responsabilité était Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'était pourtant alors âgé que de 18 ans. Et on voit que cette nomination, que les Chachamim l'ont mis à la place de Rabban Gamliel, a été contresignée par le tribunal céleste, puisqu'on lui a fait des colonnes de barbichette blanche pour que sa parole puisse trouver un écho favorable auprès de tous ses pères. Parce que si c'est un petit jeune qui vient de parler, tu ne vas pas l'estimer, mais quand tu vois un Zaken Mouflag et un Tzadik Gadol, Az, Rabotai, les gars, ils vont l'écouter, ils vont l'entendre. C'est moi qui dis, Are Anik et Ben Shinja, je suis quelqu'un qui est semblable à 70 ans. Il avait 18 ans, au moins il est en train de dire ça. Il a dit donc, je suis là-bas un Gadol Atsum. Je suis un riche. Je suis un descendant d'illustre. Et je n'ai pas mérité que ma parole, alors que je disais exactement la même chose que Rabbi Elazar que Ben Zoma. C'est le même passou qu'il était en train de dire. Je n'ai pas mérité que ma parole ait les forces de loi jusqu'à ce que vienne Ben Zoma, qui était un illustre inconnu, Rabotai. Personne ne le connaît à Ben Zoma. Il s'appelle au nom de son père, il n'a pas d'ordination rabbinique, il n'est pas Rav Ben Zoma, il est Ben Zoma au nom de son père, on l'appelle un type qu'on n'a jamais vu de notre vie. Il arrive et sa parole elle est reçue. Regarde Rabotai, cette ironie du sort. Akadosh Bokhu, il te montre que c'est lui qui dirige le monde. Lo yazor ni les ksharim que t'as, les relations que t'as, le piston que t'as, l'argent que t'as, la sagesse que t'as, les ascendants que t'as. Lo yazor les hakloum. Celui-là, il a mérité, il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Bokhu parce qu'il était saint et un Kadosh. Et il a dit les choses avec tout son cœur. Azra Botaï, c'est lui qui a dit là-bas les paroles. C'est la raison pour laquelle on te met cette parole-là au début de la Haggadah, parce qu'on a dit tout à l'heure que la Haggadah, c'est celle qui vient nous montrer que d'Akadosh Bokhu, c'est lui qui dirige le monde. Rabbi Elazar ben Azaria, qui était pourtant tellement grand, il n'a pas mérité que la parole elle soit tranchée par rapport à ce que lui il a dit et jusqu'à ce que Ben Zoma soit venu. Mais pour revenir à notre sujet et revenir donc à notre explication. Il explique Rabotai, Hatshe Darash, Ben Zoma. C'est quoi la différence entre Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma? Ils disent exactement la même chose. Savez ce que c'est la différence entre les deux? J'avais entendu d'un Rav Chassid, Tzadik, Avnei Brak, Rav Pink, on l'appelle. Il avait dit ce pshat qui est tellement puissant, mes frères. Quelque chose de magnifique. J'ai pas mérité que soit mentionné la sortie d'Égypte le soir. Jusqu'à ce que Darash Ben Zoma. C'est quoi la différence entre Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma? C'est que Rabbi Elazar ben Azaria, il disait les choses. Ben Zoma était Doresh. C'est quoi Doresh? C'est que tu vis les choses. C'est que ça bouillonne à l'intérieur de ton cœur. C'est que tu sens le Hesh à Torah. Rabbi Elazar ben Azaria, il était quelqu'un d'extraordinaire, mais il disait juste la parole. Ben Zoma, il est venu à Tchedarash. Ben Zoma, il a pété les plombs totalement. Il a dit les choses avec tellement d'abnégation et tellement de confiance et tellement de force et tellement de puissance que tout le monde a été obligé de se rendre à l'évidence que sa parole, elle était là. Mais il te dit exactement la même chose, mais ça dépend comment tu dis les choses encore une fois. Est-ce que tu vis la Torah comme quelque chose de redondant, de rébarbatif? Est-ce que tu vis la Torah comme un intermittent du spectacle et un fonctionnaire de la République? J'espère qu'il n'y en a pas dans la pièce. Il y en avait la dernière fois. J'espère qu'il n'est pas venu. J'espère qu'il est là et que je lui fais une petite blague. On le salue s'il est là. En Bretagne. Est-ce que tu fais les choses comme un intermittent du spectacle, mi-fig, mi-reza, mi-carp, mi-lapin, frère là-bas le courant alternatif, ou tu deviens ma boule quand tu vis la Torah et les mitzvot? Rabotai, c'est la shmira et la segula pour la protection et la préservation des générations. Nos enfants, Rabotai, on peut les garder dans le chemin de la Torah et des mitzvot que si jamais on sent qu'on est les plus grands milliardaires du monde. Et que de là, shulchadenu mishulchadam. C'est Rabotai le message que je suis venu vous transmettre de Bnei Brak, parce qu'encore une fois, vous êtes la prunelle de mes yeux et vous êtes mes frères et mes sœurs, je vous aime. Vous savez, comme il a dit tout à l'heure, Rabbi Ilan et Rav Koskas chez Yichiel, nous on vient ici les Manachem pour la gloire du patron, parce qu'on vous aime et qu'on veut transmettre la lumière qui nous habite. Moi ça fait 10 ans que je tourne dans le monde entier, j'ai raconté l'histoire de ma vie dans le livre des gouttes de lumière pour l'éternité. J'étais même pas à l'école juive, une des bonnes parties de ma vie, j'ai pas eu le sroute. J'ai mon papa, quand j'étais en maîtrise de droit international, il est tombé malade. J'ai décidé de consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu parce que les médecins, ils ont dit qu'il devait vivre 6 mois et je sentais que je lui devais la vie. J'ai dit, il faut que je sauve papa, Amina Shamaïm, Kadosh Baruch Hu m'a éclairé les yeux, qu'avec la lumière de la Torah, je pouvais le sauver. Je suis parti et j'ai commencé à étudier comme un lion, Rabotai. Et Baruch Hu, chez moi, mon père, il n'a pas vécu pendant 6 mois, il a vécu pendant 6 ans. On a vu des miracles extraordinaires qu'on a racontés dans les livres et les CD que je vous invite à prendre juste après le shiur. Et papa, il m'a transmis, Rabotai, un héritage extraordinaire. Il ne m'a pas donné là-bas des maisons à la Banque Centrale Européenne et au Fonds Monétaire International, les parrains de la mafia et des Wall Street et les rentiers. Mais il m'a transmis quelque chose qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond que ça. Il m'a transmis l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a transmis l'amour d'Ebnei Israël, Abat Israël, qui bouillonne dans mes tripes et dans mon cœur. Il m'a dit, si un jour tu as le sroud de t'asseoir avec les Gdolim, N'oublie jamais tes frères et tes sœurs de Klal Israël. La lumière qui nous a sortis de la torpeur et du sommeil léthargique, profite avec le maximum de personnes et fais-la rayonner dans le maximum de gens. Alors vous savez, j'aurais été aujourd'hui à l'ONU, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais été à Wall Street, j'aurais été dans tous les endroits du monde, est-ce que j'aurais été riche comme ça, Ishtar Barbe, Italie, chez moi, là, chaque année on voit des dizaines de milliers de personnes. On a ouvert une yeshiva dans laquelle on s'occupe des enfants d'Akadol Bourou pour les rapprocher d'Avinu chez Machamaïn. Une yeshiva 5 étoiles, alors vous savez que je vous invite à venir. Je ne sais pas s'il y en a des gars qui sont là-bas au milieu des études, ou qui ne sont pas au milieu des études. Les gars qui sont là-bas vers la fin de l'année, venez. Venez quelques semaines. Venez quelques mois vous remplir de la lumière. On a une cuisinière de qualité supérieure, des matelas là-bas de 30 cm. Halva, que vous ayez des matelas de qualité comme ça chez vous. Halou Waterbed. On a là-bas un endroit de 300 mètres carrés avec 300 mètres de jardin. On a des enfants à Bouddha qu'on essaye d'aider à aller dans les yeshivotes et les séminaires aussi pour les filles. Même les gars qui n'ont pas les moyens, on les prend parce que, encore une fois, c'est la prunelle de nos yeux et on a décidé de consacrer cette vie pour Hachem et pour ses enfants. Moraï Vera Bouddha, c'est ça que je voulais vous dire. Nous, quand on a vu que cette Torah était tellement magnifique, on a voulu la partager avec le maximum de personnes. Si aujourd'hui on veut être méritant de rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu d'Avinu Sheva Shamayim, la seule façon, c'est qu'on kiffe la Torah. Qu'on sente qu'on est des milliardaires. Qu'on sente que la Torah c'est notre vie et que c'est pas un fardeau, mais que la Torah c'est la chose la plus magnifique du monde. Si on ressent ça au plus profond de nous-mêmes, alors on aura le srout Bedrat Hashem. Comme on est sorti de Mitzrayim, qu'on sortira là-bas de la galoute dans laquelle nous sommes, et que nos enfants y resteront attachés à ce trésor précieux qui est la Torah. Ils ne se feront pas enrôler dans toute la Touma du monde dans lequel on est. Et à ce moment-là, quand Akadol Bukhou il verra qu'on est heureux et qu'on estime à sa juste valeur, le dévoilement de son règne, il nous enverra le Mashiach Tzedkeno, qu'on puisse le vivre, Bimera Bamenu Amen. C'est bon, mon ami. Juste ça. Donc, je vous disais par rapport au livre que je vous ai amené, ne me laissez pas repartir avec un lumbago, les gars. C'est une technique de communication qui a fait ses preuves. Interplora, ça se fan, mais les gouttes de lumière, c'est pour l'éternité.
Vous avez.
Ah, je veux dire. C'est toi qui fixe le prix ce soir, t'as dit. Et tu complètes la somme. Bon. On est associé, frérot, ça fait longtemps. Vous avez ici donc le livre des gouttes de lumière où je vous dis j'ai raconté un petit espèce sur mon père chaque fin de paracha. Ici, il y a la photo des Gdolim et des Tzadikim de la génération qui se trouve ici à la fin du Sefer. Donc, ça, c'est chaque semaine, c'est pour le Shabbat. Et ça, c'est chaque jour. Vous avez 5 minutes de Torah, toutes les parachutes et sur toutes les fêtes aussi, mais c'est par séquence de 5 minutes. N'oubliez pas de faire passer le téléphone avec les adresses de tout le monde, s'il vous plaît, parce que c'est la fin du show et je sais qu'on va parler dans folklorique à l'Arabie Jacob et qu'on peut oublier, donc à cause de ça, on ne va plus être en contact. Et moi, je vous aime, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous revoir. J'espère que j'aurai bientôt le mérite d'être avec vous, mais je ne sais pas encore. Peut-être que vous allez venir vous me voir. On a dit qu'avec Rabbi Netanel, avec Rabbi Koskas et avec Rabbi Ilan, on va des rattachés m'organiser un petit séjour cet été. Bon, les filles, on vous trouvera des occupations, n'ayez pas peur. Vous savez que le ministère de Barbichette ne sont pas trop partisans de la mixité, mais on essaiera de trouver une solution aussi pour vous inclure dans le programme. Donc, je vous disais ça, c'est chaque jour, vous avez là-bas 5 minutes de Torah. Et il y a avec nous aussi, je ne sais pas où ils sont passés les disques, vous les avez ici. Merci. Vous avez ici un bouteille bombardement intensif sur Kaboul et les environs. Depuis Pearl Harbor, on n'avait pas fait mieux. Ça, un bouteille, c'est des chirines qu'on a fait en audio. Ne jouez pas au frisbee avec. Écoutez-les avant de dormir. Mettez-vous là-bas des missiles. Quand vous allez là-bas dans le chemin et qu'il y a des embouteillages, il y a tout un temps où les gars ils maudissaient les embouteillages, aujourd'hui ils les bénissent. Mais ce que je vous demande quand vous allez vous marier de ça, il y en a qui font en secrète, ils n'ont pas trouvé de place en bas de chez eux, et de ça, ils, tout ça, ils terminent le chiot, et ça, je vous permets de vous mettez là-bas sur pause. Si votre interradio là-bas, il ne date pas du premier Beth Amikdash, bon, il faut quand même qu'il date entre le premier et le deuxième Beth Amikdash pour que vous ayez encore le CD dans votre voiture, mais bon. En tout cas, si jamais il ne date pas du premier, le lendemain, il se remet là-bas, tu n'as pas besoin de réécouter là-bas du début. Donc vous avez ici l'intégrale, on a détrôné Michael Jackson et le Billie Jean, c'est tout ça. Donc ça c'est là-bas, 225 cours en audio, bombardement intensif sur Kaboul et les environs, on s'arrange avec ceux qui veulent. Et comme m'a demandé Rabbi Ilan, les livres ils sont 26, les CD ils sont à 10 les deux, et si quelqu'un il prend l'intégral là-bas, donc c'est tous les CD là-bas, on lui fera un prix d'amis. Et je voulais vous dire que chacun il paye le prix qu'il peut pour les livres et pour les disques. Je ne veux pas que personne ne reparte d'ici à cause d'un problème financier sans farine, parce que ça me fera vraiment de la peine. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres. La parnasse est entre les mains du patron. Ce qui compte, c'est que vous vous chauffiez le cœur. S'il y en a qui n'ont pas d'argent chaud, vous pourrez payer plus tard. S'il y en a qui n'ont pas d'argent du tout, c'est tonton qui vous l'a pour Pessah. Pessah, Kachar et sa mère, je vous aime. Ouais.